Je suis ravi d'accueillir Chantal Dardley et son équipe cet après-midi. Deux, trois mots s'il vous plaît. Chantal dirige le Centre Égalité, Diversité et Inclusion de l'ESSEC Business School ici, qui porte depuis 2002 les cordées de la réussite de l'ESSEC et autres programmes de lutte contre les inégalités d'accès aux études supérieures, qu'elles soient sociales, territoriales ou liées au handicap. Elle est également directrice exécutive de Together, le démarche de transition écologique et sociale de l'ESSEC, qui déploie une politique ambitieuse d'éco-campus, mais aussi de transformation des enseignements et de la recherche pour que les questions environnementales et sociales soient prises en compte à l'auteur des enjeux. Dérèglement climatique, limites planétaires, discrimination, etc. Les questions de diversité, d'inclusion et d'ancrage territorial y jouent également un rôle central. Elle anime depuis 2005 le groupe Ouverture sociale de la Conférence des grandes écoles qui rassemble le réseau national des établissements de supérieurs engagés dans les questions d'égalité des chances et d'ouverture sociale. Enfin, elle coanime le groupe de travail transition du territoire Cégep-Ponta. Merci Chantal d'être là avec ton équipe et le floor is yours. La scène à toi.
Merci Stéphane. Bonjour à tous. Ravi de retrouver ceux que j'ai déjà eu l'occasion de voir à la rentrée sur les questions d'égalité des chances et on redira deux mots. Mais également dans le cadre de ce séminaire Comprendre et changer le monde, le groupe 13, j'allais dire le meilleur, mais je ne vais pas me faire que des amis, donc je ne vais pas l'ajouter, mais je le pense. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est la transition, et c'est un super message, la transition, c'est maintenant. Alors, de quoi parlons-nous quand on parle de transition ? Juste une définition, parce qu'en sortant de prépa, en général, vous aimez bien les cadrages et les définitions. Je vous propose celle de Dominique Bourg et d'Alain Papeau qui dit que la transition est un processus de transformation au cours duquel un système passe d'un régime d'équilibre à un autre régime d'équilibre. Mais le système, ça peut être une organisation, ça peut être la société, ça peut être aussi des individus. Et je me propose justement de commencer par un premier exemple de transition. Vous êtes en train, je pense, de vivre un moment de transition en passant de la prépa à l'ESSEC. Je pense qu'au bout de, savez quoi, 15 jours que vous êtes là, quelque chose comme ça. Je pense que vous avez déjà dû remarquer que les cadres, les lignes bougent, les attentes ne sont plus les mêmes, etc., etc. Et donc, peut-être juste pour pointer quelques éléments qui vont vous faire passer d'un régime à un autre régime. Je dis ça parce que mon objectif, c'est de contribuer à faire en sorte que vous trouviez ce nouvel équilibre dans l'ESSEC le plus vite possible et le plus épanouissant possible. Juste quelques éléments que je voudrais pointer. En prépa, on le sait, vous avez acquis des savoirs justes, géniaux, incroyables, une culture générale imbattable, une connaissance extraordinaire. Arrivé en grande école, c'est vrai des secs, mais c'est globalement vrai de toutes les grandes écoles, on va plutôt parler maintenant de savoir-faire, d'acquisition de compétences. La vraie question, c'est comment on vous outille pour être capable de prendre en compte les connaissances que vous avez acquises, mais pour les passer très concrètement à l'action. Vous avez en prépa appris à analyser, être très fort là-dessus. La question maintenant, c'est comment, fort de ces analyses, là encore, vous inventez un passage à l'action efficace, etc. Vous avez dans un système de formation relativement descendant, avec des cours, sûrement des profs qui vous ont passionné. L'expérience comprendre et changer le monde vous amène dans d'autres pratiques pédagogiques, beaucoup plus horizontales, basé sur de l'intelligence collective, hein, faisant l'hypothèse que vous êtes tous un bout de la solution de ce que vous devez apporter. C'est aussi une transition assez importante. Et la liste est longue, hein, on pourrait parler encore d'un programme commun à tous ceux qui étaient dans la classe où vous étiez en prépa, alors qu'ici à l'ESSEC, vous allez être amené à choisir des options, des cours, des chaires, des parcours, des filières, etc., etc. Donc l'école du choix. Allez, encore quelques exemples de la transition que vous êtes en train d'affronter. Mais c'est peut-être schématique, mon regard sur la prépa, parce que ça date un peu, hein, vous n'hésitez pas à le dire le cas échéant. Vous avez beaucoup appris en prépa, et notamment appris du passé, et comprendre le passé, comprendre l'histoire, pour comprendre aussi aujourd'hui. Eh bien, ce qui va se passer dans l'école, c'est la suite, c'est-à-dire inventer l'avenir. Et c'est un sacré sacré challenge aussi, comprendre et changer le monde. Dernière chose, vous avez une logique très collective avec des profils qui se ressemblaient pas mal, je pense, en prépa, en tout cas dans les attentes intellectuelles, etc. Vous êtes ici dans une école où au sein de la grande école, il y a vous, il y a les admis sur titre qui sont arrivés juste avant, les internationaux et autres. Et donc, vous allez arriver dans une grande diversité de profils et vous allez entrer dans une sorte de logique un peu singulière où on aura justement envie de tirer parti de vos singularités, faire en sorte que la richesse du collectif que vous constituez soit bien la somme de vos individus. Le message que j'ai là derrière, c'est pour réussir tout ça et réussir cette transition, restez vous-même. C'est déjà le premier message. Surtout, n'allez pas vous fondre dans un moule ou dire qu'il faut désormais imiter tel ou tel groupe et autres pour faire partie du collectif. Sincèrement, notre école sera riche de vous tous si vous arrivez à rester fort de vos valeurs, savoir ce qui est important pour vous et faire vos choix en fonction de ça, en vous libérant, j'allais dire, autant que faire se peut, de ce collectif pour pouvoir justement additionner toutes vos énergies, toutes vos forces, toutes vos compétences. Donc la grande question, ça va être, qui êtes-vous? Et c'est une question à laquelle vous allez petit à petit essayer de répondre, parce que c'est en fonction de ça que vous choisirez telle ou telle option, et c'est des sacrés défis. Et on est là aussi pour vous aider, finalement, à vous découvrir chaque jour un peu plus. On a dit transition, voilà, premier exemple de transition, passer de la prépa à l'ESSEC. Deuxième type de transition, et vous allez peut-être être moins surpris, c'est la transition écologique et sociale. Vous avez compris qu'à l'ESSEC, on s'est emparé de cette question et il y avait urgence et on se réjouit que toutes les écoles changent de braquet sur ces questions. Là encore, je ne vais pas relire toute la définition, sauf à dire que l'objectif de réussir cette transition écologique et sociale, c'est d'inventer un nouveau modèle économique et social qui apporte une réponse globale et pérenne aux grands enjeux environnementaux et sociaux de notre siècle. On pourrait ajouter, et aux menaces qui pèsent sur notre planète, vous avez vu Jean-Marc Jancovici la semaine dernière, on ne va pas être trop lourd là-dessus, mais vous comprenez ce qu'il y a là derrière. Et ce n'est que des exemples, quand on parle du climat, c'est quelque chose d'important, mais c'est même loin de représenter l'ensemble des défis ou des risques qui nous menacent. Mais on est là aujourd'hui pour inventer des solutions, donc on va passer rapidement là-dessus. Comment mettre en place un modèle de développement résilient, durable, qui repense nos façons de consommer, nos façons de produire, nos façons de travailler, nos façons de vivre ensemble. Ça va être un petit peu ça ce qui va se jouer dans les années à venir. C'est vrai à l'ESSEC, c'est vrai des organisations, et c'est avec votre génération qu'on va réussir, parce que je n'en doute pas une seconde, on va réussir à inventer ce futur désirable qui sera capable de concilier l'économie, la planète et l'humain. Donc je le redis, c'est possible et on peut le faire ensemble. Et c'est super que la transition à l'ESSEC ait pris ce nom, parce qu'on est tous un bout de la solution. Alors, une fois qu'on a planté ce décor-là, maintenant la question, c'est comment on réussit cette transition. Et je vais vous parler d'un levier qui est imbattable, je pense, c'est celui de l'engagement sociétal. C'est celui qui va, je pense, nous faire réussir ces transitions. Et donc, on va détailler un petit peu ce que l'on entend par là. Engagement sociétal. D'abord, engagement. Une proposition donc de définition de l'engagement. L'engagement, on le met à toutes les sauces hein, dans notre société, dans la vie perso. Certains s'engagent encore dans le mariage, je dis ça parce que j'y referai allusion après, ou dans d'autres formes d'ailleurs d'union, bien évidemment. On s'engage parfois dans la vie publique. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont-ils déjà des responsabilités d'élus. Ça, c'était le cas l'année dernière, par exemple, donc je le dis, ou le seront bientôt, ou dans d'autres modalités de vie citoyenne. Donc on parle d'engagement politique, on parle évidemment d'engagement en entreprise, notamment la capacité à porter haut et fort les couleurs de l'entreprise en question. Donc je vous propose la définition suivante de l'engagement, c'est décider de faire une promesse et la tenir. Décider de faire une promesse et la tenir. Donc c'est un acte qui nous lie dans le temps et c'est un acte que l'on prend de manière libre et sans contrainte. Je refais l'allusion au mariage, est-ce librement et sans contrainte, pour illustrer la question de l'engagement. Donc la base de l'engagement, c'est la liberté. Et donc c'est un acte gratuit, authentique, qu'on a décidé de faire. Quelque part, c'est une obligation librement consentie, même si on oppose parfois, ou on peut donner l'impression d'opposer des mots qui ne vont pas forcément ensemble. Mais je pense que c'est important d'avoir tout ça à l'esprit. Être vraiment libre, c'est justement choisir ses combats, qui peuvent être ceux que l'on veut, et c'est ceux sur quoi on veut justement passer son énergie. Alors, on peut s'engager pour plein de choses. Hein. La première, c'est pour vous. Et l'année dernière, en prépa, vous avez 1000 paquets, vous vous êtes à fond engagé pour être là aujourd'hui, et bravo, ça a marché. On peut évidemment s'engager donc pour soi, pour son bien-être, pour sa réussite, évidemment. On peut aussi s'engager pour ceux que l'on aime, pour ceux qui vous sont chers, pour votre premier cercle en quelque sorte. On peut s'engager pour sa nation, son pays. Bon, vous savez qu'à l'ESSEC, il y a des partenariats dans ce sens. Et puis maintenant, on va aller sur ce que c'est qu'un engagement sociétal. Alors, je vous propose la définition suivante. S'engager, enfin, un engagement sociétal, c'est quand on décide de se lier pour plus que soi et les siens. Autrement dit, c'est ce deuxième cercle, plus neutre, plus la démarche altruiste en quelque sorte. C'est la fraternité, c'est le téléthon. Ce sont des causes qui, petit à petit, vous apparaissent comme étant, enfin, méritant en tout cas du temps de votre part, de votre énergie, de vos compétences. La cause animale, enfin, on peut en citer mille et une causes et on ne va peut-être pas y aller là pour passer à l'action. Voilà, donc, je vous invite juste à réfléchir un petit peu ce que sont les causes qui vous mettent en mouvement ou dont vous dites, tiens, si aujourd'hui j'avais comme ça une opportunité, j'aimerais que ce soit sur telle cause plutôt que telle autre. Et par défaut, ben, on va déjà vous en présenter un certain nombre. C'est l'objet justement de notre échange ici. Avant ça, je voudrais aussi vous, par anticipation, vous proposer un modèle de ce que Moss appelle le contre-don. Il y a le don et le contre-don. La conviction, et j'espère que nos témoins le prouveront, c'est que donner quelque chose, bah, de fait, souvent génère en retour des choses parfois infiniment plus puissantes. Et les registres sur lesquels, en retour, les personnes qui s'engagent bah, s'enrichissent, si je peux dire, c'est d'abord la richesse des rencontres humaines, donc tout engagement est une aventure humaine, puisque par définition, on va explorer des territoires ou des univers que l'on connaît moins. C'est un cadre dans lequel on se transforme personnellement. Puis là, on est obligé de citer Gandhi. « Soyez le changement que vous voulez pour le monde. » Autrement dit, n'attendez pas que les autres inventent le monde dans lequel vous voulez vivre. Créez-le. Soyez le changement que vous voulez pour le monde. Et ça se fait en passant à l'action, finalement, en se frottant à des univers, en essayant de faire bouger les lignes petit à petit. Troisième dimension qui marche a priori à tous les coups, c'est que de fait, en ayant pris tel ou tel engagement, et on en citera plein, eh bien, vous vous retrouvez fort de nouvelles compétences. Et ce ne sont pas du tout des compétences anecdotiques. On aura, si je n'oublie pas de les dire au fur et à mesure, des exemples qui montrent que vous développez des compétences, mais au cœur même de ce pourquoi des entreprises, dans quelques années, auront envie de vous embaucher. Et peut-être que Guylaine Bertin de Deloitte vous donnera des exemples, justement, puisque elle recrute quand même bon nombre d'étudiants de chez nous. Donc, vous développez des compétences transversales qui, de fait, sont des vrais atouts après pour votre vie professionnelle, en plus de votre vie personnelle. Et enfin, là aussi, je pense qu'on a des exemples qui vont montrer, il y a une sorte d'escalade positive de l'engagement. Plus on s'engage, plus on a envie de s'engager. Donc, ça crée une spirale vertueuse qui fait qu'à réussir à faire bouger un petit peu les lignes, à la fois d'apprendre à envie de les faire bouger encore un petit peu plus, inutile de dire que si on s'y met tous, on peut vraiment changer le monde. Et c'est la raison pour laquelle cet échange aujourd'hui intervient dans le cadre de votre séminaire. Alors, j'ai donc proposé cette grille de lecture et maintenant je vous propose en deux temps de la confronter à des témoins en toute sincérité et en ayant assez peu préparé en amont. Donc, voilà, surtout qu'ils se sentent libres d'abonder dans le même sens ou pas, ça fait partie des règles du jeu. Et donc, je regarde si j'ai oublié de dire quelque chose. Non, c'est à peu près ça. On va donc du coup regarder comment certains qui vous ont précédé se sont engagés, ce qu'ils en ont tiré. Et on insiste d'autant plus sur cet aspect-là. Je vais vous montrer une petite grille. C'est qu'en arrivant à l'ESSEC, franchement, vous avez mille et une occasions de vous engager. Et c'est sûrement la période privilégiée pour le faire. En prépa, certains l'ont peut-être fait, hein, puisqu'il y a des prépas qui réservent des créneaux justement sur l'engagement. Mais enfin, il y avait quand même un certain nombre de contraintes. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que vous êtes libre comme l'air, parce que vous allez travailler. Et ceux qui vous ont dit que vous ne travaillerez pas, je pense qu'ils se sont un petit peu trompés. Mais vous allez avoir mille et une occasions, à côté de ça, évidemment, de vous engager de plein de façons. Donc, juste pour vous donner quelques exemples. Vous savez qu'il y a une centaine d'associations étudiantes, peut-être plus. Il y a d'autres associations ailleurs, il y a d'autres formats pour s'engager. Et il y a différents degrés d'engagement. C'est-à-dire, on peut donner un petit peu, on peut donner un peu plus, voilà. Et on peut, pour certains, finalement, mettre l'engagement au cœur de leur vie. Schématiquement, là, on vous en propose 5. J'ai du mal à imaginer que tout le monde ne se retrouve pas à un endroit ou à un autre là-dedans. D'abord, vous pouvez vous engager très ponctuellement. Ce sera deux soirées dans l'année au Resto du Cœur, et il cherche toujours du monde à Cergy, ou ce sera mille et autres façons sur un événement ponctuel. Ça peut être un engagement régulier dans la durée. On verra plusieurs exemples, mais déjà peut-être certains d'entre vous ont peut-être fait, je ne sais pas, des chefs scouts, Le territoire aussi charge des chefs scouts d'ailleurs, et c'est de fait un exemple d'engagement régulier dans la durée. Voilà. Ça, on parlera du tutorat, on entre évidemment dans cette case-là, et d'autres aussi, les engagements associatifs à l'ESSEC par exemple. Après, vous pouvez vous engager à plein temps pour une période déterminée. On vous donnera là aussi des exemples, c'est le temps d'un stage, si vous choisissez bien son objet, c'est le temps du service civique, on y revient. Quatrième axe, et vous voyez qu'on augmente finalement dans l'ambition, dans l'ampleur de l'engagement, vous pouvez mettre l'intérêt général au cœur de votre métier. Moi, je pense que Guylaine illustrera à la perfection cette case-là. Et puis, dernier exemple, vous pouvez créer votre propre entreprise sociale et donc décider d'inventer une solution nouvelle à une problématique de la société et vous battre pour développer votre entreprise. Et puis, Jérôme, qui est là, nous en donnera plusieurs exemples. Donc voilà, pourquoi s'engager, comment s'engager, le champ des possibles est vaste. Je précise juste un truc de façon très pratico-pratique, c'est que l'ESSEC valorisera dans vos cursus bon nombre de formes d'engagement, puisque comme on l'a dit, c'est un endroit et c'est une façon de développer des compétences. Donc si vous êtes tuteur dans les programmes d'égalité des chances, si vous faites un service civique, même si ce n'est pas fait pour ça, de fait, on reconnaîtra que vous y avez développé des compétences et donc ça vaudra X, UVEP, UVEI. Enfin, vous avez dû découvrir déjà ces éléments-là dans votre diplomation. C'est juste un juste contre-don de votre don aussi de la part de l'école. Voilà, voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour le cadrage initial. Mais sur cette base-là, je vais vous proposer dans un premier temps deux témoins de l'engagement sociétal à titre personnel, à titre individuel. Et puis on regardera ce que ça veut dire ensuite pour les organisations. Donc, j'invite Mathias et Jérôme à nous rejoindre ici. Jérôme, au taquet, et de vous installer là. Et je vais commencer par toi, Mathias.
Bonjour.
Ça va ? Normalement, quand tu parles, il va s'allumer, je pense.
Vas-y. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui.
Parfait, parfait. Bon, ben, écoute, Mathias, tu as la parole. Je vais juste passer là-dessus. Alors, si c'est un peu trop petit, je te donne l'exemple.
Alors, j'ai mon téléphone parce que je suis un peu bigleux.
OK, OK. je te laisse dire qui tu es, c'est-à-dire quand tu étais sur ces mêmes bancs. Et puis, peut-être relire ton parcours d'engagement avec ces différents niveaux d'engagement. Et ensuite, on zoomera sur l'un d'entre eux dans la foulée. En quelques minutes, peut-être, raconte ton parcours en regardant les types d'engagement que tu as connus depuis que tu es à l'ESSEC.
Très bien. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mathias. Je suis désormais en cinquième année à l'ESSEC, donc de grande école comme vous. Et j'espère que c'est ma dernière année parce qu'un jour ou l'autre, il faut bien diplômer. Pour faire un bref engagement sur mon parcours, donc en première année, moi, je me suis engagé au Noise ESSEC. Donc, je vais faire un peu pompeux, je vais défiler l'acronyme, c'est le Nouvel Observatoire de l'Innovation Sociale et Environnementale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association qui s'occupe de réaliser une transition écologique et sociale juste pour tous au sein de l'ESSEC. Ensuite, j'ai été aussi tuteur pour PQPM, dont vous avez sans doute aussi entendu parler, et peut-être que Chantal refera un point pour ceux qui ont oublié, en première année. Ensuite, pour mon stage de fin de première année, j'ai été en association au Centre français des fonds et fondations, qui est... une tête de réseau pour les fondations françaises, donc plutôt tournée philanthropie. Et là, moi, je termine une alternance à la Banque des Territoires, donc une marque du groupe Caisse des Dépôts, où moi, j'étais en communication dans un département qui s'occupe d'investissement à impact, donc d'investir dans les entreprises de l'ESS sur plein de sujets intéressants, la transition écologique, la transition alimentaire, l'éducation, l'inclusion numérique, la santé, le bien vieillir, etc. Donc, plein de choses vraiment passionnantes. Donc, on peut le voir dans la classification, en fait.
Je le relis. Engagement ponctuel, je valide directement au deuxième niveau. Engagement, tu as raison, c'est pas...
Régulier dans la durée. C'est bon, là, je la vois mieux. Vous voyez, donc, de l'associatif qui est à la limite entre l'engagement ponctuel et l'engagement régulier, puisqu'en fait, vous êtes tout le temps dans l'association, mais vous vous engagez aussi en fonction du temps que vous avez, en fonction de vos contraintes personnelles, jusqu'au stage où c'est un engagement plutôt... dans un plein temps pour une période déterminée jusqu'à l'alternance où vous mettez quand même un peu l'intérêt général au cœur de votre métier, on voit bien que Au sein du parcours ESSEC, c'est assez facile de remplir, on va dire, les différentes cases. Vous n'êtes pas obligé de les cumuler, ça c'est très important, en fait, on s'en fiche. Vous pouvez très bien devenir tout de suite, créer votre entreprise sociale, et vous n'êtes pas obligé de tout faire non plus. Par exemple, moi, je pense que jamais je n'irai créer une entreprise sociale, parce que je ne me sens pas une fibre entrepreneuriale. Mais voilà, donc globalement, n'hésitez pas à vous engager comme vous voulez, comme vous l'entendez, et comme vous le souhaitez. Après, une deuxième chance, je dirais, à l'ESSEC, c'est que du coup, on peut organiser son parcours comme on le souhaite. Et du coup, vous pouvez aussi choisir de vous engager au moment où vous le souhaitez, au moment opportun. Voilà.
Mais j'ajouterais que si on ne le fait pas en première année, en général, c'est moins bien barré pour la suite. Oui. Parce que c'est la première année où vous êtes là toute une année, ça vous permet de faire des choses qui seront plus complexes quand après, vous n'êtes plus là au T1, vous êtes là au T2. Voilà, hein, je le précise quand même. Autrement dit, l'engagement, c'est plutôt maintenant. On va le dire. Okay. Je propose de revenir sur un engagement particulier. Alors, parmi vous, bravo, vous êtes déjà un certain nombre. Vous êtes engagé dans le parcours de recrutement des tuteurs et tutrices, à la fois d'une grande école, pourquoi pas moi, et de Phare. Pour des raisons diverses et variées, on m'a demandé de vous en reparler et surtout de l'illustrer avec la grille de contre-don pour les étudiants tuteurs. Donc, en deux mots, hein, être tuteur, ça veut dire pendant un an, accompagner un groupe de jeunes, collégiens ou lycéens, et en gros, les aider finalement à devenir ce qu'ils sont, à prendre conscience de leur potentiel, donc à faire sauter des verrous liés à leur origine sociale, territoriale, etc. Donc, c'est 3 heures de rencontre chaque semaine, compatible évidemment avec vos études. En ces côtés, hein, vous allez avoir l'expérience terrain, parfois loin. Bon, tout ça est parfaitement compatible. C'est quand même l'intérêt d'un programme porté par l'ESSEC, donc zéro inquiétude là-dessus. Et donc, des centaines, des milliers d'étudiants avant vous l'ont fait. Et donc, la question est, tu étais tuteur de qui? Et avec la grille de lecture, qu'est-ce que ça t'a apporté?
Alors, moi, j'étais tuteur à Drancy, avec des troisièmes. Donc, c'est un peu particulier quand on est avec des troisièmes. En fait, on a deux demi-groupes qui alternent d'un samedi sur l'autre. C'était très, très cool, je vais quand même le dire de manière initiale. Et après, du coup, sur la grille de lecture... Pour l'aventure humaine, je vais commencer par prendre un pas de recul et vous dire que de toute façon, si vous vous engagez, vous vous engagez toujours sur deux facteurs. Il faut que vous ayez du temps et il faut que vous ayez l'envie. Si vous n'avez pas de temps, de toute façon, à la fin, vous serez anxieux, vous n'arriverez pas à tout caser dans votre emploi du temps et ça ne rendra pas très bien pour vous. Et surtout, si vous n'avez pas envie, à la fin, vous finirez aigri. Et les gens aigris sont insupportables, donc pitié, ne vous engagez pas. Mais engagez-vous si vous avez vraiment envie d'aider. Et comment dire ? Du coup, moi, je me suis engagé parce que j'avais du temps et j'avais l'envie. Et il se trouve que finalement, c'était une aventure humaine à laquelle je ne m'attendais pas forcément. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant sur l'engagement, c'est que parfois on s'engage sans avoir vraiment conscience de tout ce que ça peut nous apporter derrière. Et très sincèrement, question aventure humaine, le tutorat est vraiment, vraiment, vraiment incroyable parce que vous sortez de 2 ans de prépa, 3 ans de prépa pour certains, et là vous allez rencontrer des collégiens, vous vous retrouvez en fait 10 ans en arrière et vous commencez aussi à réfléchir un peu sur vous et sur votre vie. Où est-ce que vous en êtes arrivé et eux, où est-ce qu'ils peuvent en arriver ? Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. D'un autre côté aussi, les séances de tutorat, c'est des séances amusantes, en fait. On n'est pas des profs, on n'est pas là pour leur faire des cours un peu pénibles où on doit leur faire une liste de compétences qu'ils ont à acquérir à la fin. On est vraiment là pour les faire sortir un peu de leur... les faire éclore, finalement. Donc, on fait des ateliers de théâtre, on fait des ateliers de débat, on fait du plaidoyer, on fait des actualités, etc. On fait des cours de langue. Et en fait, c'est toujours très amusant. Concrètement, d'être avec eux. Moi, j'ai des très bons souvenirs d'ateliers de théâtre où, en fait, on donnait des rôles loufoques aux personnes qui vraiment étaient très sérieuses et, à l'inverse, aux personnes qui voulaient faire un peu n'importe quoi, on leur donnait des rôles de directeur et directrice et ça donnait, en fait, du grand n'importe quoi, hein, globalement.
Mais ça les faisait avancer quand même.
Et ça les faisait avancer, en fait, au contraire, parce que, justement, ça leur fait acquérir les compétences qu'ils n'ont pas forcément.
Ce que ça t'a apporté, toi ?
Ce que ça m'a apporté moi, du coup, c'est une aventure humaine dans le sens où vous créez des liens avec ces jeunes et derrière, ça vous fait aussi vous poser des questions sur vous, votre propre parcours. Peut-être que du coup, je vais passer sur la transformation personnelle, même si transformation, je trouve que c'est un petit peu pompeux. Je parlerai plutôt de changement très graduel, en fait, parce que je pense que les individus changent de manière graduelle sans vraiment s'en rendre compte. Faire le tutorat, moi, ça m'a permis de réfléchir sur moi-même et mon propre parcours, et notamment de voir que ces collégiens-là, ils avaient 14, 15 ans, Et en fait, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire de leur vie pour beaucoup. Et finalement, moi aujourd'hui, j'en ai 24, je ne sais toujours pas. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment si différents de moi? Et ça peut aussi permettre de se poser des propres questions sur son parcours. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Où est-ce qu'on veut arriver derrière? Qu'est-ce qu'on veut faire aussi? Et ça a été très intéressant. Et c'est aussi un regard un peu miroir, parce qu'ils vous posent des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse préformatée, en fait, pour lesquelles vous êtes en fait complètement à côté. Vous n'avez pas du tout les mêmes réflexions, les mêmes doctrines, et du coup, ça vous pousse aussi à réfléchir en dehors des cadres conventionnels qu'on vous a appris, notamment en classe préparatoire, où on fait beaucoup de conventionnels pour préparer des concours, c'est normal. Et donc ça, c'était très, très, très intéressant. Et je pense que ça permet aussi de changer du coup, de regard sur sa propre trajectoire, sur soi-même et sur son parcours. Sur la troisième question, du coup, sur les compétences transversales, je pense que ça, c'est la partie la plus intéressante, en fait. En fait, on apprend beaucoup de choses, mais moi, il y en a une que vraiment je voudrais noter, c'est que c'est peut-être votre première et votre seule vraie expérience de management. Parce qu'ici, on est dans une école de management, vous faites tous et toutes un master de management, mais jamais, dans votre cursus, vous n'allez être manager. Vous allez parfois être managé dans vos stages, etc. Vous verrez ce que c'est un mauvais manager, hein, vous ne vous inquiétez pas, ça vous arrivera très bien, mais vous ne ferez pas d'expérience de manager. Vous ne dirigerez pas, là, en fait, dans le tutorat, vous dirigez la séance. Vous avez des jeunes, vous avez des compétences à évaluer, et vous devez leur donner des tâches en fonction de leurs compétences, etc., etc. Donc, en fait, c'est une vraie première expérience de manager, vous n'en aurez pas d'autre. À la fin de l'ESSEC, on vous filera votre diplôme Master in Management, vous sortirez, et en réalité, vous n'aurez pas d'expérience. Vous aurez tous vos livres, tous vos belles conventions, mais vous n'aurez rien de plus. Et enfin, du coup, je vais peut-être conclure, parce que j'ai été un peu long, sur les autres engagements, moi, vraiment, cette expérience a été très forte et j'ai très bons souvenirs. J'en ai surtout un que je voudrais partager. C'était, en fait, du coup, on faisait pendant ces ateliers une séance d'orientation et il y a une jeune fille qui voulait faire médecine depuis très longtemps. C'était vraiment son rêve et qui nous avait dit « Ah, mais c'est très bien la nouvelle réforme du baccalauréat. Ils ont supprimé les mathématiques. Je vais pouvoir arrêter de faire des mathématiques à partir de la seconde. » Et on était tous là, tous les trois tuteurs, à lui dire « Mais malheureuse, mais ne fais pas ça. En fait, si tu arrêtes les mathématiques à partir de la seconde, tes rêves de médecine s'envolent, puisque la médecine, c'est de la biochimie, c'est de la physique, tu auras beaucoup de calculs, donc il faut que tu continues les mathématiques. » Et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des personnes qui sont très très éloignées de la réalité des études supérieures et qui se plantent simplement parce qu'elles n'ont pas eu les bons conseils avant. Et du coup, c'est pour ça que moi là, pour finir mon diplôme de l'ESSEC, pour valider mon expérience internationale, même si ce n'est pas de l'international, je vais partir sur l'île de la Réunion, dans le cadre du dispositif Trouve ta voie, pour aider les jeunes de territoires prioritaires à s'orienter justement et à mieux préparer et mieux prévoir l'orientation.
Ah ben super, donc là tu as rebouclé sur la dernière partie, la spirale de l'engagement, après les engagements que tu as eus, tu pars en service civique en l'occurrence. Oui. Pour le Centre Égalité des Chances, puisque chaque année, on donne à des étudiants qui le souhaitent l'occasion de partir piloter des programmes en grande autonomie et en portant les partenariats locaux à La Réunion et en Guyane. Et tu seras donc à La Réunion. Tu as bien illustré la boucle de la boucle. Je rebondis, quand on parle de compétences attestées, il y a une thèse qui a montré que les étudiants qui sont tuteurs à l'ESSEC développent des compétences de leadership que les autres ne développent pas. Typiquement, la capacité à faire monter en compétence les collaborateurs, et ça, c'est quand même important pour un chef. L'empathie, et je pense que notre société a besoin d'être un petit peu plus empathique, et un certain nombre d'autres, on pourra mettre à disposition de ceux qui le souhaitent la synthèse de cette thèse. Je pense qu'on s'est tout dit. Merci, Mathias, pour ton témoignage. Pour conclure quand même sur les programmes d'égalité des chances, il reste deux call pour ceux qui veulent être tuteurs, c'est demain midi, on est lundi là, hein, donc demain midi en PA8 de 12 à 13 et jeudi midi toujours de 12 à 13 en PA9. Les PA sont les petites amphis qui ne sont pas très loin d'ici. Si vous ne voulez pas un jour vous dire « Damned, j'ai loupé le coche », je vous suggère juste d'y aller, d'entendre le champ des possibles, de regarder comment ça se goupille, de voir la banane de ceux qui passent par là. Puis après, vous pourrez au moins choisir en connaissance de cause, librement, voilà, comme on le disait précédemment. Et puis pareil, juste deux mots, mais je le laisse à l'écran, le temps que ceux qui souhaiteraient faire un service civique sachent qu'il existe, ça valide aussi l'équivalent finalement si vous faites 6 mois de service civique, c'est comme 6 mois de stage, à partir du moment où on peut attester des compétences que vous y avez développées. Je clôt ce chapitre-là et je passe à Jérôme. Alors Jérôme, ça va être difficile de tenir en un quart d'heure tout ce que tu peux nous dire sur l'engagement, parce que je pense que tu coches à peu près toutes les cases. Je te laisse resituer ton parcours et je te donne même la manette si tu veux passer au slide suivant, ou je les passerai pour toi.
Oui, il y en a pas trop.
C'est parti.
Merci Chantal de ton invitation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Guylaine. Moi, je suis Jérôme Schatzmann. J'étais diplômé, ma promo officielle, c'est 1994. J'ai 50 ans, j'ai eu 50 ans cette année. L'engagement pour moi, ça a commencé au lycée, en fait, vraiment. Des journaux lycéens, à Masséna, à la Canale, essayer d'expliquer au proviseur de Louis le Grand que des conseils de classe en un quart d'heure, c'était pas sérieux. Des bribes de militantisme, des manifs, c'était sympa. Ensuite, arrivé à l'ESSEC, mon engagement il était vraiment plutôt associatif, au FOIS, au rugby, au bureau des élèves.
Ouais, c'est possible hein, de concilier tout ça.
On avait monté aussi un guide de Cergy Pontoise pour découvrir les restos qu'il pouvait y avoir. Il y en avait 161 à l'époque et c'était sympa d'aller les découvrir. Après, il est venu le moment de la diplomation, la fin de l'école, là où t'en es à peu près aujourd'hui, enfin bientôt, hein, ça va bientôt finir, à un moment donné, ça finit. Ouais. Moi, j'ai décidé de faire un stage long chez Procter & Gamble, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Procter & Gamble, mais c'est une grande boîte qui vend des lessives, donc Ariel, Bonux, Dash, Monsieur Propre, je ne sais pas si ça vous parle. Et donc j'étais vendeur sur le terrain et je suis allé vraiment beaucoup au contact humain, dans des supermarchés, tôt le matin, pour refaire des... J'étais au cœur de la société de consommation. Mais j'ai appris beaucoup sur la psychologie et les rapports sociaux. Et puis ensuite, j'ai décidé de faire un service civique, ça s'appelait Service Ville à l'époque, dans une entreprise qui s'appelle La Table de Cana, et qui est une entreprise d'insertion, donc une entreprise qui a une activité économique et qui se sert de ce flux économique pour générer de l'impact social et permettre à des gens de retrouver leur place dans la société par le travail. Donc, j'étais à ce moment-là sur des questions autour de c'est quoi mes valeurs, est-ce que je peux le mettre dans mon boulot, est-ce que cet engagement c'est à côté du boulot, est-ce que c'est en politique. Je me suis beaucoup posé la question de l'engagement politique, j'étais très attiré par ça. Finalement, j'ai plutôt décidé d'aller dans cette voie de ce qui s'appelait pas encore l'entrepreneuriat social, mais vraiment mettre dans mon boulot, utiliser ce que j'avais appris à l'ESSEC en termes de gestion, en termes de management, pour essayer de générer des occasions pour des personnes de se réinsérer. Voilà. Et avec toujours ces questions quand même de est-ce que je peux avoir une vie confortable en étant engagé professionnellement, est-ce que je peux changer le monde, est-ce que je peux essayer. Et à l'époque, j'avais quand même trois choses qui me tenaient énormément à cœur, c'est ma liberté. Je voulais rester libre, je voulais être autonome, ça va un peu avec, et je voulais prendre du plaisir. Et je me suis dit, ça, c'est des choses que j'ai gardées toute ma vie.
Des valeurs, je parlais de valeurs tout à l'heure.
Ouais, je sais pas si c'est des valeurs, mais en tout cas des choses sur lesquelles je veux pas transiger. Donc des valeurs, admettons. Voilà. Et donc. Donc ça, je ne sais pas quel rang c'est, du coup. Voilà, et la table de Cana, je vous en parlais. En fait, donc, j'ai fait mon service là-bas, je suis resté 7 ans ensuite, parce qu'ils m'ont proposé un super job. Et en rebond à ce que tu disais, c'est vrai que moi, j'avais 24 ans, et on m'a proposé de devenir patron d'une boîte, en fait. Et puis à 26 ans, je dirigeais la maison mère où j'avais 80 salariés. Et j'ai eu un niveau de responsabilité super vite, en fait, avec beaucoup de management. Et pour moi, c'était chouette, parce que j'avais mon métier, c'était organiser des fêtes. On mangeait bien. J'avais ces responsabilités, on animait une super équipe, il y avait vraiment un côté très... Alors on bossait beaucoup, hein, on bossait, quand vous êtes traiteur, vous bossez quand les autres font la fête aussi, donc vous bossez pendant les mariages, vous bossez pendant les réveillons, mais vous avez ce côté aussi back-office, vous savez ce qui se passe derrière justement le show que peut être une réception. J'ai beaucoup aimé cette période et je l'ai fait jusqu'à mes 30 ans. Et à ce moment-là, j'avais un petit peu fait le tour et je suis parti au Brésil pour des raisons strictement personnelles. Et là-bas, après m'être un petit peu posé, j'ai décidé de créer ma boîte. Là, pour le coup, je suis passé dans la phase je crée mon entreprise sociale. Donc, c'est le cinquième cercle de tout à l'heure. Et j'ai créé une marque en fait qui s'appelait Tout de Bon. Tout de Bon, ça veut dire What's Up, quoi. Ça veut dire comment ça va en portugais. Et pour moi, c'était une marque autour de l'optimisme, qui est ce qui m'a le plus plu au Brésil. Donc optimisme, convivialité, toujours pas mal de responsabilités, en portugais, donc une langue que je ne connaissais pas avant de partir au Brésil. Et ça, c'est une aventure qui a duré 13 ans. Où on a pris, bon, alors il y a eu des moments plus ou moins faciles, à la fin c'était pas facile puisqu'on a arrêté, mais on s'est beaucoup régalé autour une fois de plus de la rencontre et de situations très diverses, puisqu'on travaillait aussi bien avec des producteurs de coton, des couturières, montage de filières biologiques de coton, confection équitable de vêtements. Voilà, entre-temps, j'ai fondé une famille. Tu parlais du mariage. Moi, j'ai d'abord fondé la famille, ce qui est une autre forme d'engagement vis-à-vis des enfants. Tu peux rester avant, mais voilà, je vous ai juste mis, mais j'ai quelques autres boîtes dans lesquelles je me suis investi. Toujours des entreprises d'insertion, Investir et Plus, qui est un fonds d'investissement qui investit dans ce type de boîte-là. Et la dernière en date, c'est Festin et Les Baumets. Festin, c'est une association marseillaise. Et Les Baumets, qui va ouvrir dans un mois, c'est le premier resto d'insertion en prison en France. À partir du 18 octobre à Marseille, on va pouvoir aller déjeuner dans les murs, en fait. Et l'idée, c'est d'abord, c'est un chantier d'insertion pour permettre à des personnes qui sont proches de la sortie de bosser et de se réhabituer. Mais c'est aussi l'objectif de casser les murs, en fait, et de changer les perceptions sur l'incarcération à travers ce restaurant, donc qui sera une première française. Donc moi, je suis président de l'association, c'est pas mon travail, mais je suis très fier et très ému de ce projet-là qui va voir le jour. J'avais 40 ans à peu près à la fin, c'est tous les 10 ans. Et là, j'ai une réflexion sur l'impact. Je me suis posé, sur cet engagement, je me suis dit, est-ce que je continue à monter des entreprises sociales, ou est-ce qu'en fait, je peux avoir plus d'impact si je vais essayer de changer des organisations de l'intérieur? Donc là, j'ai créé une direction développement durable dans une entreprise de cosmétiques, mais qui était clairement orientée vers le profit. Ça a été compliqué. Et puis ensuite, je suis arrivé à l'ESSEC, je suis revenu ici. Depuis 6 ans, je travaille à l'ESSEC et j'ai rejoint, en fait, le pôle d'innovation sociale de l'ESSEC, donc l'innovation à impact social, environnemental, positif, qui était déjà un pôle super pionnier et où j'ai retrouvé ce qui était important pour moi, donc l'équipe, le sens de ce qu'on fait au quotidien, et beaucoup de plaisir aussi, beaucoup de célébrations qui sont importantes pour moi. Voilà en gros le parcours d'engagement. Si on revient un petit peu plus sur ce qu'on fait à l'ESSEC, sur ça, donc l'idée, c'est est-ce qu'on arrive, l'idée du développement durable, c'est il y a l'économique, le social, l'environnemental, et est-ce qu'on arrive à faire marcher tout ça ensemble, est-ce qu'on arrive à réconcilier ça, ou est-ce que c'est antagoniste et il faut forcément choisir entre les deux? Si vous faites du social, vous pouvez pas gagner d'argent, et ce genre de questions là nous on essaye d'y tu peux passer le voilà on a juste 3 initiatives dont je vais vous parler. Mais donc on a une chaire d'innovation sociale qui existe, qui démarre sa 21e promo, qui a démarré en 2002, qui a 450 diplômés de cette chaire aujourd'hui qui sont dans la nature, enfin qui travaillent pour la plupart. L'idée de cette chaire d'innovation sociale, c'est comment on fait du social en étant efficace. Donc on est des managers, on est des gestionnaires, on est des ESSEC. Quand on va gérer une association, c'est quoi la bonne manière de le gérer? C'est comment on fait pour que ça marche bien? Et donc c'est utiliser toutes ces compétences qu'on apprend à l'école pour les mettre au service de ces organisations, ou pour aller créer des départements RSE, ou pour faire changer des boîtes de l'intérieur, ou pour monter son entreprise. Enfin, il y a plein de manières d'utiliser ces compétences-là, en fait. Donc c'est ce qu'on apprend dans cette chaire d'innovation sociale. Vous pourrez vous poser la question en deuxième, troisième ou quatrième année de candidater. On a créé aussi un accélérateur qui s'appelle Entropia ESSEC. C'est un accélérateur qui est tourné vers... on recrute dans la France entière des entrepreneurs qui veulent avoir beaucoup d'impact social et environnemental, et on les accompagne pour leur donner le plus de chances possible de réussite à différents stades de leur vie. Donc on a une équipe de 7 personnes qui travaillent sur ces questions-là. Et enfin, on a créé un... Alors je vous reparlais de triple bottom line, en fait, d'économique, environnemental, social, cet équilibre si dur à trouver. Et en fait, cet équilibre, il pose la question de la mesure de la performance. En fait, quand vous demandez à quelqu'un est-ce qu'elle marche ta boîte, en fait, ça veut dire quoi? De quoi on parle? Et nous, on a créé un laboratoire qui réfléchit sur cette évaluation d'impact social et environnemental, c'est-à-dire comment je vais mesurer la performance, comment je vais dire si ça marche ou pas. Est-ce que c'est juste un compte de résultats, ou est-ce que c'est un compte de résultats et d'autres choses? Donc c'est ça qu'on fait dans ce laboratoire, on fait de la recherche sur ça. Et je crois que j'ai un dernier truc, mais tu peux passer le. On a créé un site où vous pourrez retrouver tout ce qu'on fait qui s'appelle impactinitiative.essec.edu, où on met justement. On met à disposition des manières de rentrer dans ces sujets-là. Il y a des MOOC, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des articles. On pense que l'ESSEC peut avoir un vrai rôle pour les étudiants, pour vous, mais aussi pour tout son environnement mondial, une école monde, aux racines françaises, n'est-ce pas ? Voilà, en gros.
Quand on disait que, à titre individuel, on peut changer le monde, je pense que si un jour on mesure ton impact social, Jérôme, ça va cartonner hein, quand même. Voilà. Ouais. Est-ce que tu es heureux dans la vie ?
Écoute, ça va. Ça va, après on vit, hein. 50 ans il se passe pas mal de choses, donc il y a des moments sympas, il y a des moments moins sympas, mais non, je suis très heureux. Moi je vous disais plaisir, liberté, autonomie, c'est ce que j'ai essayé de garder toute ma vie dans mes choix. J'ai fait pas mal de choix par opportunité aussi, ça s'est présenté, j'ai dit est-ce que ça coche les cases ? Oui, ça coche les cases, donc je monte dans le train finalement. Mais aujourd'hui j'ai un boulot qui me plaît, j'ai des enfants qui grandissent, oui. Bon ben j'ai un club de foot que je supporte qui est pas mal cette année, donc je suis content.
Bon ben voilà, c'est juste pour vous dire qu'on peut conseiller tout ça. Changer le monde, être heureux, vivre pleinement. C'était la partie engagement sociétal individuel. Donc ce qu'on vous invite en fait à chacun, enfin ce qu'on propose à chacun d'entre vous, c'est de regarder comment dans votre vie, dans vos choix au quotidien, à côté des cours, peut-être parfois dans les cours, comment vous pouvez voilà, être acteur de demain, inventer un demain, ce futur désirable qui conciliera toutes les trois dimensions dont on parlait précédemment. Merci d'avoir été là. Et puis, on vous donnera les coordonnées des intervenants, si vous voulez les contacter, parce que par exemple, Jérôme et Entropia et autres ont souvent des bons plans de monitorat pour les étudiants, des façons finalement de remplir des missions en étant plus rémunérés. Ça existe, ça hein. Voilà. On va passer à une deuxième partie. Alors je vois qu'Anne-Claire n'est pas là, sauf si elle est cachée. Anne-Claire Pache, c'est pas grave. Guylaine, tu veux bien me rejoindre ? On va commencer et parler maintenant de ce que c'est que l'engagement sociétal d'une organisation, parce qu'il y a l'individu et il y a l'organisation. Et donc, vous connaissez sûrement déjà l'entreprise Deloitte, qui, alors j'en profite pour dire, qui a eu la... En tout cas, le courage d'accompagner le développement des programmes d'égalité des chances, notamment depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus. On a grandi ensemble, on a inventé ensemble tous ces programmes et avec beaucoup d'engagement, je réutilise ce mot, et beaucoup de fidélité de la part de Deloitte, et j'en profite pour remercier. Guylaine, je te laisse peut-être te présenter, à la fois au sein de Deloitte au sens large, dire peut-être deux mots de ce qu'est Deloitte pendant qu'on y est, et puis parler après de la fondation Deloitte, parce qu'il se trouve que les fondations d'entreprise, dans ton cas de figure, c'est une des façons finalement qui traduit l'engagement sociétal, et on peut peut-être parler de ça. Dans un deuxième temps, on reviendra aussi plus largement sur la RSE de l'entreprise, si tu veux bien.
Donc merci Chantal, merci Jérôme, donc bonjour à tous. Je suis aussi jury à l'ESSEC, donc je suis ravie d'avoir contribué à ce que certains d'entre vous soient dans cette salle. Donc je ne m'attendais pas à ce que Jérôme parle de lui de façon aussi personnelle, donc c'est pas forcément mon habitude, mais donc je vais pas forcément, voilà, je pense avoir eu moins d'impact que toi. Mais, donc moi, je suis donc Guylaine, je suis directrice chez Deloitte, donc mon métier de base, c'est expert comptable commissaire aux comptes, donc métier austère, mais que j'essaie de mettre au service justement du collectif et notamment du social. Donc par ailleurs, j'ai la chance aussi de diriger la Fondation Deloitte, donc, qui a été créée, on a commencé en 2001 à faire des actions.
Que tu as contribué à créer, oui, mais, quand même.
Et la Fondation elle-même s'est créée en 2008, donc j'en suis la déléguée générale. Et voilà, on accompagne l'ESSEC depuis 20 ans. On s'accompagne réciproquement sur ces sujets. Moi, à titre personnel, donc, je dirais que je suis une indignée hein, depuis toute petite. Donc vous savez, celle que... voilà, toujours un peu chiante, qui est déléguée de classe, qui est toujours en train de... Alors non pas pour... Mais pour voilà, défendre, etc. Donc ça, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient. Donc mes parents sont directeurs et directrices d'école publique, donc le côté hussard noir de la République. Et voilà, en tout cas, c'est comme ça. C'est ni un défaut ni une qualité, c'est un constat. D'avoir du mal à supporter, effectivement, l'iniquité. Donc c'était soit je devenais avocate, juge, etc. Et puis ça n'a pas été mon chemin. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est de faire bouger les lignes aussi à l'intérieur d'une entreprise classique. Hein, parce que Jérôme vous a parlé des entreprises sociales, ça fait partie des cercles concentriques. Moi, mon choix, c'était d'avoir un métier, effectivement, un peu classique et qu'on peut qualifier de très business et de faire bouger les lignes de l'intérieur. Donc, c'est aussi une des options. Hein, donc, c'est important aussi que vous opposiez pas les grandes entreprises et l'entreprise sociale. Enfin, voilà, on travaille de façon très proche avec la chaire entrepreneuriat social et on se heurte enfin, souvent, effectivement, à ces logiques. Soit je fais du social et je ne rembourserai pas mon prêt étudiant, soit je fais du business classique mais je perds mon âme. Donc voilà, donc c'est un peu manichéen. Et y a effectivement un curseur, une troisième voie. Après, c'est très personnel, mais sachez qu'en tout cas, la maison que je représente a des vraies convictions, il les met en pratique depuis plus de 20 ans. Donc on est un cabinet de conseil et d'audit, et donc on a à la fois, on essaie d'être un peu cohérent avec nous-mêmes sur l'entreprise elle-même, on est 6000 salariés en France, à peu près 200 000 dans le monde, mais surtout on a une force de frappe assez importante sur nos clients, notamment dans le cadre de missions de conseil ou de missions de certification de compte. Et donc voilà, l'idée c'est d'être un peu, on ne peut pas conseiller si on ne fait pas nous-mêmes, et à notre échelle effectivement essayer d'être cohérent. Je pense que ce qui est important c'est l'alignement. Il n'y a rien de pire, hein, que les gens qui disent et qui ne font pas. Donc ça, il vaut mieux faire moins, mais être au moins cohérent avec soi-même. Donc c'est vrai que voilà, donc, moi, j'ai choisi un métier hard skill, un métier classique. Et je pense, moi, ma conviction, c'est que c'est important. On accompagne beaucoup de jeunes, parce qu'effectivement, on a appris notre métier auprès de Chantal et de tous les essais dans le cadre des tutorats d'une grande école, pourquoi pas moi. Le nom est d'ailleurs fallacieux. Hein, on cherche à ce que chacun des jeunes trouve sa place et ne fasse pas forcément une grande école. Il y a d'autres voies possibles, mais en tout cas, le PQPM... Et donc, on a monté les opérations ensemble avec Chantal. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous, tuteurs, vous vous arrêtiez en fin de lycée. Et donc, les élèves, super, ils avaient, vous étiez arrivés à les motiver pour faire des études plus ambitieuses qu'ils auraient fait au départ. Mais je veux dire, le post-bac, c'est encore une aventure. Hein. Donc, en fait, on a lié. C'est-à-dire que les collaborateurs de l'OAT les accompagnent à partir du moment où ils ont le bac. Et vous, vous êtes au niveau lycée. Et on se passe le relais. Donc, en plus, certains d'entre vous nous rejoignent et continuent. Mais on peut tout à fait continuer à être parrain en entreprise. Et on les porte jusqu'au, soit en bac plus 2 s'ils s'arrêtent, en BTS, soit on va plus loin, soit on va en bac plus 5, etc. Et on voit à quel point la non-équité joue beaucoup. Enfin, les fins de licence, quand on est en université pour passer en master 1, c'est toute une aventure, tout s'arrête, c'est pire que Parcoursup. Donc il faut être là tout le temps, quand on n'a pas de réseau, pour trouver des stages, c'est un combat de tous les instants. Et on a créé un collectif d'entreprises aussi pour offrir le plus de stages possible à des gens qui n'ont pas de réseau. Donc c'est des éléments assez concrets. Et donc moi mon credo ça a été effectivement ces jeunes là on les pousse à avoir des métiers hard skill et pas schématiquement hein, mais à éviter de faire du marketing du luxe hein, pour les filles ce qui est quand je vais beaucoup dans les prépas de proximité on est très proche en 93 et le 95 on a été la première entreprise à se jumeler avec un lycée donc on voit les élèves très tôt à partir de la terminale et c'est vrai que le fantasme des filles de faire du marketing du luxe peut-être que certains d'entre vous en feront. Mais l'idée, on se dit quand même, notamment quand on n'a pas de réseau et qu'il y a quand même une certaine obsolescence programmée dans ces métiers, y compris sur les métiers de la communication, que les filles peuvent peut-être faire autre chose et aller vers des métiers plus digitaux, des métiers sur lesquels il y a un peu plus de profondeur de champ. On les pousse à ne pas faire des choix trop girly et aller vers des métiers où nous, on sait qu'il y aura effectivement plus de boulot dans la durée, même si ce n'est pas facile à prévoir. Donc voilà, toute une partie business et toute une partie chez Deloitte qui relève effectivement de l'engagement. Aujourd'hui, chaque salarié a 2 jours pleins par an. Donc, c'est à la fois pas mal, mais à la fois, on peut faire mieux. Mais en même temps, on doit à la fois, avant tout, travailler notre core business, mais pouvoir s'engager. Et donc, on s'engage notamment sur les terrains de l'éducation et de l'entrepreneuriat social. C'est pour ça qu'on est tellement proche de l'ESSEC, parce qu'on est sur vos deux piliers dans le cadre, effectivement, de vos actions. Donc, sachez que quand vous passez en entreprise, pour beaucoup d'entre elles, vous n'arrêtez pas. Tout ce qui vous aura motivé en termes d'engagement, c'est des choses qui sont possibles à continuer.
Et qu'est-ce que ça apporte à tes collaborateurs finalement d'avoir ces 2 jours où ils se mettent au service de l'intérêt général ? Ce n'est pas du temps perdu et des bénéfices loupés pour Deloitte ? Qu'est-ce que vous gagnez en contrepartie quelque part ? Le fameux contre-don, il se manifeste comment ?
Donc c'est vrai qu'en fait, toi, tu me demandes de le rationaliser, et en fait, on l'a créé très intuitif. C'est-à-dire qu'en 2001, on était 20 salariés à avoir créé, à avoir demandé à ce que ce mouvement se crée. Donc voilà, j'étais parmi les 20, donc je sais comment ça s'est passé. On ne se connaissait pas forcément entre nous, on avait juste envie de pouvoir être utile sur notre temps et notre lieu de travail, pas différer ça à la retraite. Donc ça s'est créé de façon très spontanée, et la direction générale nous a rejoints progressivement. On est vraiment partis en pionnier, en disant, on est dans des super lieux, on a la Défense, on est une super tour, on regarde Nanterre de haut. Enfin, il y a un moment, si on ne contribue pas un peu à s'impliquer... Déjà, je pense que notre direction a beaucoup réagi en 2005. En 2005, il y a quand même eu... on a vu les jeunes de Nanterre arriver en cagoule et envahir la Défense. Donc là, ça les a un peu secoués en disant, très clairement, c'est pas bon pour le business, tout ça non plus. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a eu un gros électrochoc pour les entreprises. Je parle de la Défense parce que c'est là où on est, c'est très incarné. Mais on avait avancé en marchant. Donc c'est vrai, rétrospectivement, on reconceptualise le don contre don. Mais il y a une notion d'évidence. Hein, donc beaucoup de collaborateurs se disent, on ne peut pas éternellement être... Parce qu'en fait, on a 20 étages d'une tour qui est vraiment en hauteur. Donc c'est vraiment cette sensation, effectivement, d'être... d'être dans des super locaux, super privilégiés, puis de se dire, voilà, on ne peut pas éternellement... il faut décloisonner les mondes. Quoi. C'est important, mais c'est important aussi en termes concrets et économiques. Pas seulement... moi, je le fais par conviction sociale, mais c'est bon aussi pour le business. Donc, à titre personnel, nos collaborateurs... Alors, il ne faut pas que la recherche de sens se porte sur ces opérations-là. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas en votre métier, ce n'est pas en faisant 2 jours par an que ça va vous réconcilier avec le sens. Hein. C'est important de trouver du sens à peu près dans tout ce qu'on fait, mais ils nous disent très clairement voilà, ça rajoute du sens et que ça leur fait un bien fou pour ceux qui veulent. Il y en a quelques-uns qui ne veulent pas. L'an dernier, sur les 5 500, il y en a 3 500 qui sont impliqués. Rien n'est obligatoire, on n'est pas là. Il n'y a rien de pire de se dire, voilà, on fait du social obligatoire. Je sais que c'est le cas dans certaines prépas. Mais à un moment, ça relève de la conviction et c'est votre droit le plus strict de ne pas du tout avoir envie de le faire. Donc, en tout cas, pour ceux qui le font, de se sentir légitime, qui est une exemplarité de la direction générale aussi. Et ça leur fait du bien, tout simplement. Nous, on l'a vu, par exemple, quand on fait des conseils d'administration. Donc, nous, on y assiste en tant que commissaire aux comptes. Et puis après, il y a un déjeuner avec tous les dirigeants, les représentants du personnel, etc. Et très souvent, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et très souvent, ça continue à parler business. Quoi. Donc moi, je suis responsable de mission d'audit dans des banques. Alors se reprendre après 3 heures de conseil d'administration, encore des discussions sur les swaps, les options, les taux, ça monte, ça descend, etc. Et en fait, progressivement, donc moi, ils savaient que j'étais branché là-dessus, donc quand ils avaient envie de se détendre, ils me faisaient parler. Mais j'ai vu les patrons progressivement se dire que voilà, eux-mêmes, ça pouvait faire bouger les lignes. Et moi, j'ai vu des associés chez nous se dire... ça m'a donné 2 types de relations avec mes clients quand je parle de ça, qui est à la fois interne à l'entreprise, mais à la fois un mouvement exogène. Donc ça nous rapproche de plein de gens, ça nous rapproche de nos clients, les collaborateurs, ça leur apporte une bouffée d'air. Et donc il y a une vraie cohérence. Et tu parlais des développements, notamment pour vous, en termes d'empathie, en termes de... je veux dire, comme vous dites, vous êtes plus aux manettes sur ces sujets-là que vous ne l'êtes parfois en termes... Donc là, on est là à faire du descendant et c'est pas très... agréable pour moi. J'aimerais mieux que ce soit plus interactif. Et Dieu sait si c'est. En tout cas, je trouve ces journées indispensables. Mais on parle effectivement de l'interaction sans forcément la pratiquer. Mais c'est clair, il n'y a pas photo. Nous, sur les CV, quand on voit que vous êtes impliqué sur ce type de choses, c'est vos capacités managériales, tu l'as évoqué, ont été mises en pratique. Et donc ça, c'est vraiment précieux.
Donc entre 2 candidatures. ESSEC, 2 diplômés, ça peut faire la différence justement entre un profil de quelqu'un qui s'engage, c'est-à-dire qui a finalement qui a en tête ses enjeux d'intérêt général et ceux qui ont eu un parcours peut-être...
Honnêtement, oui. C'est pas démago, hein, c'est vrai. Et ça rajoute une cohérence totale. On est vraiment dans le travail d'équipe, etc. Quelqu'un qui... Alors, là aussi, vous avez tout à fait le droit de faire de la JE, de faire autre chose. Mais c'est vrai que c'est vraiment compatible de faire un peu des deux et cet engagement sociétal... Il ne faut pas que ça soit la mode, c'est important. Je vous dis, il y en a quand même certains qui le font, mais quand c'est fait avec cohérence, la candidature, elle prend une autre étoffe. On a une autre densité dans l'entretien et on sait que ça va être en cohérence avec ce qu'on pratique. Donc il faut aimer, il faut aimer le hard skill, son métier, ce vers quoi on va pouvoir apporter une plus-value à nos clients. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on fait ces actions sociales et c'est vrai qu'en entretien, dès qu'on peut s'axer sur ce thème-là, ça crée une miroirisation qui fait que le candidat, il passe en haut de la pile, il n'y a pas photo.
J'ai en tête une statistique d'étudiants qui s'étaient engagés dans différents dispositifs, et à eux tous, ils disaient que 80% de leur temps d'entretien d'embauche avait été consacré justement à leurs expériences d'engagement. Donc c'est dire que, d'ailleurs, diplômé sec, on voit à peu près ce qu'il y a, et après, ce sont les histoires, c'est l'impact, c'est tout ce qui a été vécu. Merci pour cet éclairage. Et Anne-Claire qui arrive pile poil à l'instant. Reste là, Guylaine, si tu veux bien, et si on a le temps de questions-réponses. On continuera. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que le sujet, la question de l'engagement sociétal, c'est pas une histoire de bisounours dans un coin de l'ESSEC qui rêve d'un monde meilleur. C'est la conviction forte de la direction de l'ESSEC et de bon nombre de personnes au sein de notre organisation. C'est que c'est aujourd'hui vous préparer à votre job de demain que de vous sensibiliser à ces enjeux et de vous outiller pour que vous soyez en capacité de trouver justement les voies de passage vers ce dont les entreprises devront demain pouvoir montrer qu'elles ont compris et trouver les solutions à l'intersection de l'économique, de l'environnement, du social. Donc merci à toi Guylaine. On pourrait parler de plein d'autres choses, peut-être qu'on va y revenir dans les questions, parce que là on a parlé de la fondation de l'Ouate, mais par exemple, je vais juste dire un mot de la fresque de la biodiversité. Vous allez manger pas mal de fresques cette année, vous avez compris. Demain vous faites la fresque du climat. Alors vous allez conforter un certain nombre de choses que vous avez déjà vues la semaine dernière. Mais c'est un outil pédagogique qui va vous permettre de discuter entre vous. Et ça, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est ça là, ce qui est super dans, dans cet outil fresque du climat. J'en profite pour vous dire que vous allez aussi faire la fresque de la diversité bientôt. Pareil, occasion de confronter vos regards sur la vision que vous avez de la différence. Et c'est, ça, c'est un outil pour le coup que l'ESSEC est fier d'avoir inventé. Et puis, il se trouve que sur tous nos sujets sociétaux, dont la biodiversité, ben des outils aussi pédagogiques permettant de l'intelligence collective, permettant de créer le débat, permettant d'échanger, sont nés. Et vous avez, tu confirmes, c'est bien chez vous aussi qu'est née la fresque de la biodiversité que j'ai faite il y a quelques temps.
En tout cas, on déploie clairement la, ouais. la fresque de la diversité.
De la biodiversité aussi.
Voilà, c'est fondamental pour engager des discussions, etc. Et surtout faire bouger. On est en mode solution, hein, parce qu'on a, on a dépassé le mode sensibilisation. Ouais. Donc voilà, on a tous besoin de vous pour agir rapidement maintenant. Donc tout ça, on le déploie et on est le plus souvent possible pilote. Et là, on déploie de façon massive ces fresques. Ouais.
Merci à toi d'être venu montrer l'engagement des entreprises classiques, j'allais dire, dans ces enjeux environnementaux et sociaux et dans ces enjeux de transition. Je reviens deux petites secondes sur la slide que j'ai passée trop rapidement tout à l'heure. Les organisations, quand on parle d'engagement sociétal des organisations, c'est vrai qu'on parle bien des entreprises privées à finalité lucrative, on va les appeler comme ça, les entreprises classiques, celles auxquelles on pense le plus spontanément, comme Deloitte. Les organisations privées à finalité sociale, c'est ce que Jérôme a particulièrement illustré, mais l'ESSEC fait partie finalement de celle-là. Vous savez que l'ESSEC est une association loi de 1901, puis la finalité sociale, former les managers de demain, c'est quand même un sacré défi. Et les organisations publiques, je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez aussi bien les collectivités locales que tout ce qui peut se passer dans la sphère publique. Je reviens là-dessus parce que ce qu'on a entendu aussi dans ton témoignage, hein, Guylaine, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des mondes disjoints. Il n'y a pas ceux qui vont s'occuper de faire de l'argent, les autres de faire, etc. C'est tous ces mouvements-là qui se mettent en route, d'où le partenariat entre l'ESSEC et Deloitte de longue date, et aussi tout ce que l'on fait par ailleurs avec d'autres acteurs. Voilà, merci encore. Anne-Claire, merci de nous avoir rejoints. Je vais t'inviter à ton tour à prendre le micro. On va donner un autre exemple d'engagement sociétal d'une organisation. Et comme on aime bien s'appliquer à nous-mêmes ce que l'on enseigne, on va parler de l'engagement sociétal de l'ESSEC, qui est une organisation de l'enseignement. Et pour en parler, c'est Anne-Claire. Donc, je te laisse te présenter avec tes différents titres, si tu veux bien. Et puis après, on entrera peut-être dans la démarche de transition de l'ESSEC.
Très bien, merci Chantal. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ou de vous accueillir aujourd'hui. Donc je suis Anne-Claire Pache, j'étais assise sur ces bancs il y a maintenant un petit peu de temps, comme Jérôme, on était de la même promo. Donc je sais ce que c'est que ces les premiers jours, les premières semaines à l'ESSEC, où on est à la fois hyper enthousiaste d'être là et en même temps en train de commencer à comprendre ce que va être la vie d'après. En deux mots, ce que j'ai fait moi tout de suite après l'ESSEC, c'est m'engager dans une aventure d'entrepreneuriat social dans le cadre de la chaire économie urbaine que j'avais faite à l'époque. Elle existait déjà, c'est la mère de toutes les chaires d'engagement sociétal au sein de l'ESSEC. J'avais croisé la route d'une jeune américaine qui était porteuse d'un projet de développer en France l'idée de service civique pour les jeunes. Et on était trois jeunes femmes de 22 ans à l'époque dans cette chaire économie urbaine à écouter Lisbeth présenter cette idée et à dire « mais en fait, c'est génial, nous, on rêverait de faire un service civique à l'époque, on parle des années 90, ça n'existait pas en France, il n'y avait que le service militaire pour les garçons, mais rien du tout pour les filles et rien de civique au sens de s'engager pour vraiment une année, prendre du temps pour la société ». Et on s'est dit, écoutez, ça n'existe pas, on a envie de l'inventer. Donc avec Lisbeth, Marie, Julie et moi à l'époque, on s'est engagés dans la création de ce qui est aujourd'hui Unicité, qui est l'association qui a inspiré la politique publique que vous connaissez, j'espère tous, hein, le service civique qui a été d'abord porté en 2005 par le gouvernement Villepin, puis par Martin Hirsch, puis qui est encore aujourd'hui porté par le gouvernement actuel. C'est Unicité qui a inspiré cette, euh, cette politique publique. Et ça a été, moi, pendant 5 ans après la sortie de l'école, mon travail au quotidien. On a créé, non pas une entreprise, mais une association qui a progressivement expérimenté et développé en France cette idée de service civique. Et j'ai tellement aimé cette expérience d'entrepreneuriat social que je me suis dit, en fait, j'aimerais que d'autres que moi ou que nous, le petit groupe qu'on était, puissent avoir cette expérience-là. Donc, je suis partie aux États-Unis 2 ans pour essayer d'apprendre un peu plus sur cette notion d'entrepreneuriat social, de gestion des organisations non lucratives, parce que ce n'était pas une thématique qui était tellement développée en France à l'époque. Et puis, je suis revenue en 2001 à l'ESSEC, tapant la porte en disant, mais quid de créer en fait une chaire et une formation à l'entrepreneuriat social. Et donc Thierry Sibiot, qui était professeur à l'époque déjà, a dit, mais oui, c'est génial, j'ai envie de porter ça. Et donc on a lancé en 2003 cette chaire en entrepreneuriat social. J'ai trouvé ça tellement passionnant que je me suis dit, en fait, je veux rester dans le monde académique. J'ai fait une thèse, je suis devenue professeur en 2010. En 2014, on m'a sollicité pour prendre la direction de la grande école et de l'ensemble des programmes de formation initiale. Donc de 2014 à 2017, j'avais le rôle de Arti, que vous avez rencontré, je crois, pour la rentrée. Et puis en 2018, quand j'ai terminé cet engagement à la grande école, la question s'est posée de comment continuer à aider l'ESSEC à se transformer et à avancer. Et avec un petit groupe, avec Jérôme, avec Thierry, avec Chantal, avec Arthur, donc un certain nombre de professeurs, on a travaillé à écrire une feuille de route pour faire que ces questions d'engagement social, qui étaient jusqu'à la fin des années 2010, qui était un peu à la périphérie de l'ESSEC. On était à la fois bienvenus, mais on ne parlait qu'aux super engagés de nos chaires ou des programmes d'égalité des chances. Et finalement, on transformait assez peu le cœur du réacteur ESSEC. Et il y avait plein d'élèves qui pouvaient rentrer et sortir de l'ESSEC sans avoir jamais entendu parler, peut-être à part dans ce séminaire ou en tout cas de manière ponctuelle à la rentrée, des sujets d'engagement. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, une business school ne peut pas considérer que c'est son métier que de former 100% de ses élèves aux grands enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, la démarche Together, dont je suis aujourd'hui la directrice académique et qui est aujourd'hui représentée par mon intermédiaire aujourd'hui, mais par d'autres demain, au sein du conseil, du comité exécutif de l'ESSEC, on appelle ça le COMEX, il y a aujourd'hui un rôle, un poste, qui est la direction de la stratégie et de l'engagement sociétal, que j'occupe aujourd'hui, qui porte, dans les instances de gouvernance les plus hautes de l'école, ces sujets-là, avec l'ambition qu'on porte au quotidien avec Chantal pour vraiment aider à faire bouger les choses au quotidien. Transformer l'école sur ces 3 grandes dimensions, la formation, donc veiller à ce que tous les élèves qui passent à l'ESSEC, quel que soit leur programme, quelles que soient leurs ambitions professionnelles, leurs envies, leurs passions, soient formés avec un minimum de contenu sur les enjeux environnementaux et sociaux, et puissent, pour tous ceux qui le souhaitent, se spécialiser avec le développement de nouvelles chaires. Je vous avais parlé de la chaire Innovation Entrepreneuriat et Innovation Sociale, qui existe depuis 20 ans. On a fêté ces 20 ans avec à peu près 200 diplômés en juin dernier. Il y a de nouvelles chaires qui sont nées, transition écologique, économie circulaire, leadership et diversité, bien commun. Donc il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui, en complément de l'économie urbaine que j'évoquais au départ. Il y a beaucoup d'opportunités pour chacun de vous, en fonction de vos centres d'intérêt, de vos priorités, de vos envies, d'aller trouver exactement la manière de vous spécialiser. Et on travaille par ailleurs et on compte aussi sur vous pour aller porter la bonne parole auprès de vos professeurs, auprès de toutes les personnes que vous rencontrez dans le programme, pour faire qu'il y ait également, par exemple, dans vos cours fondamentaux, des mentions dans vos cours de finance, dans vos cours de comptabilité, dans vos cours de marketing. Nous souhaitons pouvoir transformer quelque part le logiciel qui vous est apporté pour que vous compreniez que aucune des disciplines de gestion aujourd'hui ne peut échapper à cette question de comment est-ce que la crise climatique, comment est-ce que les inégalités sociales, comment est-ce que les enjeux de discrimination, de diversité et d'inclusion percutent les organisations et comment est-ce que demain, dans vos métiers, vous devrez, vous, inventer les solutions et gérer des organisations pour faire face à ces énormes enjeux. Et donc voilà, dans les grandes lignes, la démarche Together, et je vais peut-être laisser à Chantal la possibilité de rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que ça va vouloir dire et comment est-ce que vous pouvez contribuer.
On va continuer à deux voix, hein. Donc vous avez compris qu'on voilà, on va regarder les choses en face et on sait qu'on a quelques petites vagues là qui nous attendent. Et on a dit dès le début, on croit qu'on peut trouver des solutions et on s'y attelle. Et plus on sera nombreux à apporter les solutions et à s'engager, plus vite on convergera vers tout ça. Donc, voilà ce qu'on a dit, notre principe c'est agir. On ne va pas attendre que les autres le fassent, on va se mettre et on fera en sorte aussi d'engager dans la foulée un maximum d'acteurs justement sur ces transformations de pratiques. Donc ça, tu en as déjà parlé. Hein, c'est-à-dire on va assumer de dire... il faut qu'on remette en question à peu près tout, en fait. Il faut qu'on change de paire de lunettes et qu'on re-questionne nos métiers, nos enseignements, nos pratiques au quotidien dans une démarche radicale. Ça veut juste dire prendre les problèmes à la racine. Justement dit, quand on voit les ordres de grandeur des défis qui nous attendent, bien sûr qu'on va continuer à éteindre la lumière plus que jamais, mais il va falloir aussi agir sur d'autres leviers. C'est un petit peu ça, donc prendre les problèmes à la racine. S'y mettre tous, c'est pour ça qu'on vous embarque dans comprendre et changer le monde. Hein. C'est dire que, en fait, plus on sera nombreux et plus chacun fera sa part, plus on a de chances de s'en sortir. Voilà, et on s'applique à nous-mêmes, je le disais, ce que l'on veut faire. Alors concrètement, c'est drôle parce que j'entendais, quand vous arriviez tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui disait « Oh là, c'est pas très écolo, on a tous reçu un petit bout de papier », ce qui est vrai. Parce qu'on pourrait dire « Bah, ce papier, vous allez les jeter, tout ça ». Bon, donc on peut faire mieux. La vérité, c'est qu'on essaie de s'attaquer au dur. Alors bien sûr, on essaie de tout faire le mieux possible, mais ne perdons jamais de vue que là où sont les grands enjeux, quand même. C'est vrai qu'on va essayer d'optimiser dans le quotidien les petits détails, mais ce qu'on veut surtout, c'est vraiment s'attaquer aux enjeux et aux leviers, on va dire, les plus impactants. Bon, alors je ne vais pas vous lire tout ça, mais la matrice dans laquelle on s'est engagé à l'ESSEC et ce sur quoi on a bâti 8 plans d'action que je vous présente juste après, pour que vous puissiez à votre tour y participer, c'est donc les 3 grands enjeux, les 3 principales colonnes. On veut que vous soyez des leaders capables de vous emparer des problématiques environnementales. On veut que vous soyez des leaders capables de comprendre les enjeux sociaux, on va dire, et territoriaux. Si j'ai le temps, je redirai 2 mots aussi du territoire de Cergy, d'ailleurs. Et puis, on veut aussi qu'au-delà de ce qui se passe à l'ESSEC, on entraîne dans la foulée un maximum de gens. On le disait tout à l'heure, le service civique, tu as commencé, puis 20 ans après, c'est une politique publique. Je vous parlais de pourquoi pas moi, 2002, aujourd'hui, c'est une politique publique des cordées de la réussite. Ça montre qu'on peut commencer des choses, et puis par la suite, ça prend une telle ampleur que ça devient vraiment contributeur de nouvelles pratiques. Ça sont donc nos 3 grands sujets. Et Anne-Claire l'a dit, nos leviers, c'est l'enseignement. Tout ce que l'on vous apporte jour après jour, année après année, doit se transformer pour être de plus en plus en phase avec ce qui vous permettra d'agir dans le monde de demain, enfin de préparer ces nouvelles pratiques. La recherche, c'est fondamental, bien sûr, et le partage des enseignements de la recherche. Il faut qu'on les partage, il faut qu'on crée des nouveaux outils pour accélérer la transformation. Et le dernier élément, c'est la vie sur le campus. Et là aussi, inutile de dire que vous avez un rôle à jouer. Tout ça dans une gouvernance très collaborative, puisque, bien sûr, on a besoin de toutes les compétences, toutes les idées. Donc, je disais concrètement, on a organisé 8 plans d'action. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, je vous disais, vous allez être invité à faire des choix en permanence et aussi à vous dire, finalement, moi, ça me parle plus de travailler sur les questions d'économie circulaire ou plus sur les questions de climat ou plus sur les questions de diversité. Il y a tellement de sujets que, quelles que soient vos préférences et la cause sur laquelle vous souhaitez vous engager, parlons-en parce qu'il se passe tellement de choses dans la maison, vous avez toutes les chances de pouvoir être un acteur de changement. Mais concrètement, donc, on a un premier plan qui se déploie hein, et on est en phase d'ailleurs de la première étape, donc on aura bientôt à rendre des comptes et à regarder le chemin parcouru et puis à fixer bien sûr de nouveaux objectifs. C'est la transformation, j'y reviens pas, de tous vos enseignements, formation initiale et formation continue, parce qu'on ne va pas non plus attendre que vous soyez tous à des postes de direction pour que les lignes bougent. On vous outille, mais on essaie aussi évidemment de faire bouger les entreprises aujourd'hui en accompagnant les leaders actuels. J'ai parlé du plan recherche et valorisation. Et donc, sur les enjeux très pratiques, on a un plan climat qui vise la neutralité carbone et ça, vous en parlerez longuement demain. Si ces sujets-là vous intéressent, allons-y. Et vous allez voir que qu'à l'ESSEC, on a pris un certain nombre de... Enfin, on a fixé des nouveaux cadres, typiquement sur les mobilités. Pas facile de concilier une école monde avec en même temps les empreintes carbone, etc. Puisqu'évidemment qu'il faut que vous soyez acteur du monde et donc que vous puissiez continuer à vivre toutes ces expériences internationales. La question, c'est comment on peut rendre ça le plus... Enfin, comment on peut trouver le meilleur équilibre avec les conséquences environnementales ou l'impact environnemental de tout ça. Donc ça, c'est le plan climat où on parle mobilité, où on parle alimentation durable, où on parle numérique responsable. Vous voyez bien l'impact du numérique qui monte en flèche aussi. Bon, comment on agit sur tous ces leviers-là? On a des propositions et on essaie de se transformer petit à petit avec vous sur le campus. Tri et économie circulaire, vous avez dû voir qu'on a mis un système de tri à 6 flux. C'est pas pour la déco, c'est pour que chacun d'entre nous puissions contribuer finalement à d'abord à gaspiller le moins possible. Hein. Ça, c'est le monde d'avant, le monde du gaspillage, le monde où on jette, le monde où on consomme plus que ce que la planète peut fournir. C'est le monde d'avant. Et par contre, plus on trie sérieusement, plus on peut créer des filières de recyclables et donc plus on a des chances de ménager les générations à venir, puisque c'est quand même ça l'enjeu. Donc l'économie circulaire, ô combien centrale. Et la question de la biodiversité, alors vous arrivez alors que l'ESSEC est en plein chantier, mais justement vous allez voir l'aboutissement de ce nouvel ESSEC, de ce nouvel environnement, et on veut vraiment que les espaces verts du campus soient à la hauteur des défis de biodiversité, puisque vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais on est coincé entre le parc François Mitterrand là, le bois de Cergy là, l'Oise qui passe à côté, on est dans un îlot de verdure, c'est peut-être pas la première facette de Cergy que vous avez découvert, mais je vous assure que c'est vrai, et donc notre campus doit pouvoir illustrer ça aussi. Diversité, inclusion, j'y reviens dans un instant, même si on en a parlé, vivre ensemble, faire de la différence des richesses, parce qu'on n'arrivera pas à inventer des pratiques différentes si on est sur un modèle où on se ressemble tous avec le même profil et autres. On est dans une école internationale, super, on aura des idées venant de toutes les cultures possibles et imaginables. À nous de créer les conditions pour bien tirer parti finalement des singularités de chacun qui font la richesse du collectif. Et puis on a deux derniers plans. Alors je vais commencer par le plan des alumni. Vous êtes déjà alumni d'ailleurs, puisque vous êtes désormais ESSEC, mais imaginez juste ce qui peut se passer si on arrive, en travaillant avec tout notre réseau de diplômés de l'ESSEC, à les outils à leur tour pour que dans leurs organisations aujourd'hui, ils accélèrent la transition. Voilà, ça fait partie des éléments qui me faisaient dire au début de cette introduction, les défis sont énormes, mais on est en capacité de les relever tous et de s'outiller pour inventer ce futur désirable. Allez, je vais finir sur l'ancrage territorial. Vous êtes dans Comprendre et changer le monde. Je vous disais, il y a un super groupe, le groupe 13. Les autres sont super, sûrement aussi. Mais avec ce groupe 13, moi, j'ai découvert un truc qui m'a complètement scotché. Je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Je ne sais pas quelle est l'image que vous avez de Cergy Pontoise, mais ce groupe-là, en tout cas, est à 80% en train d'arriver à l'ESSEC avec une image négative ou très négative de Cergy. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous aussi? Cergy, c'est ça ou c'est comme ça? Indiquez-moi votre perception de Cergy. Ça, c'est si vous trouvez que c'est une ville géniale. Voilà. Alors, soyez le plus clair possible. Allez-y, votez. OK. Ah, c'est bien ce qui me semblait. La raison pour laquelle je voulais prendre la parole là-dessus, d'abord, ça a à voir très directement avec notre sujet. Comment peut-on avoir envie de s'engager sur un territoire sur lequel on arrive avec des pieds de plomb en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce coupe-gorge ?» Donc, je veux déconstruire un certain nombre de choses sans nier le fait à Cergy, comme partout, comme à Paris, je ne sais pas si certains vivent à Paris, comme partout, oui, il existe une certaine insécurité, oui, il existe, il y a un peu de délinquance, il y a tout ce qu'on veut. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, il faut le remettre à sa juste valeur. Je défends fermement Cergy Pontoise, où j'habite depuis 40 ans, avec ma famille nombreuse. Je vous assure que ce n'est pas le coupe-gorge. Je vous assure que c'est une ville où, pendant le confinement, on a sûrement été dans des conditions infiniment meilleures que bon nombre d'entre vous. Et s'il y a des problèmes, c'est vrai, je vous assure qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est complètement disproportionné. Et donc, pour vous le prouver, engageons-nous sur le territoire. À tous ceux qui souhaitent, j'ai déjà fait la proposition de faire un jour une grande virée en vélo dans le coin. Vous verrez qu'il y a des endroits où il fait bon vivre et où on peut rencontrer des gens super chouettes avec une diversité de parcours, une diversité d'histoires sûrement plus riche que dans pas mal d'endroits. Donc, je vous demande juste d'ouvrir un petit peu vos chakras sur l'idée de déconstruire la relation que vous avez à Cergy, parce que je vous jure qu'elle est erronée. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on est sur une planète idéale. Non, on est dans le monde tel qu'il vit, dans notre société telle qu'elle vit, mais ni pire, ni meilleur qu'ailleurs. Je voulais terminer par revenir à vous.
Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on attend de vous? Parce que c'est ça la question. Soyez le changement que vous voulez pour le monde. N'attendez pas que les autres imaginent les solutions parce qu'ils ont peut-être des risques de pas y arriver. Et plus on sera nombreux à prendre des choses en main, plus on a des chances d'y arriver et d'arriver à ce futur désirable, pardon. Donc à inventer de nouveaux fonctionnements où on soit, où on puisse être heureux, vivre ensemble dans les meilleures conditions possibles et le plus aligné possible avec vos valeurs et ce que vous êtes. Il y a plein de leviers sur lesquels vous pouvez être acteur du changement. Bien sûr, en tant qu'étudiant et étudiante, au sens des cours, en exerçant votre esprit critique, en respectant les formes, bien sûr, mais en n'hésitant pas à questionner peut-être les modèles ou les propositions qui vous sont faites, en regardant justement en quoi elles sont ou non, ou comment elles pourraient l'être peut-être davantage en phase avec les exigences des défis sociétaux qu'il nous faut relever. Vous êtes des acteurs du campus ? Très bien, on va apprendre aussi à vivre ensemble, toutes cultures confondues, et quelle chance, vous n'avez peut-être pas côtoyé autant de nationalités jusqu'alors, c'est le moment, sur un territoire lui aussi divers, je le disais, et puis un campus où il se passe tellement de choses que l'ensemble des pratiques au quotidien, les déplacements, l'alimentation, peuvent être questionnés. Soyez force de proposition, parlons-en. D'ailleurs, je crois que j'ai dit « together@esec.edu » pour recueillir toutes vos suggestions. Et nous, on essaiera de vous faire passer petit à petit tout ce qui se met en route pour améliorer le quotidien et répondre de mieux en mieux à ces enjeux-là. Vous allez bien sûr rejoindre le milieu associatif. Super, bravo. On pense qu'il y a encore des marges de progrès sur, la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans les associations, pour qu'elles soient accueillantes à tous, pour qu'elles soient des cadres dans lesquels chacun s'épanouisse. Et puis, évidemment, aussi pour que leur impact environnemental soit le plus faible possible. Je sens qu'il y a encore du travail, mais c'est pour ça qu'on vous en parle. Vous allez, là aussi, peut-être contribuer à faire en sorte que d'année en année, on s'améliore. J'ajouterai, le plus vite sera le mieux. En tant que tuteur, tutrice, là aussi, c'est surtout aussi ne loupez pas une occasion de passer une année extraordinaire. Mais bon, voilà. Mais là aussi, bien sûr, que c'est être acteur du changement que de déconstruire déconstruire des murs ou des plafonds ou autres que certains ont dans les têtes, mais que des représentations que vous avez peut-être vous aussi sur les quartiers. Hein. C'est ce dont je parlais précédemment. Vous êtes de fait Sergi Pontin pour 2-3 ans. Bon, peut-être qu'on peut aussi contribuer à transformer la relation de l'ESSEC à son territoire. C'est l'objet d'un des groupes de Comprendre et Changer le Monde et j'espère que vendredi, ils vont vous convaincre que de belles heures nous attendent. En tant que, c'est vous qui saurez à quel titre vous allez contribuer à rendre le futur plus durable, plus solidaire, etc., etc. J'ai mis ici un certain nombre d'illustrations, mais ce ne sont que des premiers exemples. Et on ira d'autant plus loin que vous viendrez tous, que vous serez tous embarqués dans cette opération. On a beaucoup parlé, vous avez beaucoup écouté. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet de l'engagement sociétal comme étant finalement le premier levier de transition? Parce que prendre conscience des défis, c'est une chose. Passer à l'action et être convaincu que demain peut être différent, c'en est une autre. Et c'est ça où on veut vous emmener maintenant. Est-ce que vous avez des questions à l'un ou l'autre de nos intervenants, l'une ou l'autre de nos intervenantes? Oui. Vous avez 3 ans à l'ESSEC pour changer le monde. Je le redis, le plus tôt le mieux. Mettez-vous en route dès que possible et je vous assure qu'à l'arrivée, c'est beaucoup de contre-dons qui vous attendent. Merci.
C'est pour vous tous. Bonjour, vous nous avez dit que vous étiez parti aux États-Unis justement pour vous imprégner de l'esprit d'entrepreneuriat social qu'il y avait là-bas. Mais à ma connaissance, les fondations en général aux États-Unis, c'est surtout pour de l'évasion fiscale et pour faire de l'optimisation. Et c'est ces méthodes-là que vous avez dit avoir importées avant de vous lancer dans ce genre d'études. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une forme d'hypocrisie dans les écoles de commerce liée justement à ces fondations, ces volontés sociales qui sont peut-être une image qu'essayent de se donner les écoles de commerce pour se valoriser?
Anne-Claire, je pense que c'est pour toi.
Oui. Alors, première chose, quand
Je suis partie aux États-Unis. Ce n'était pas pour me former aux fondations ni à l'évasion fiscale. J'étais dans une école de politique publique spécialisée en gestion non lucrative. Donc, c'était beaucoup plus regarder comment comprendre les vrais enjeux de gestion d'une organisation quand son moteur n'est pas un moteur de génération de profit. Donc, c'est à ça que je me suis formée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes et des dérives réelles dans les fondations américaines. Je ne me suis pas formée à l'évasion fiscale et je n'ai pas ramené ça à l'ESSEC. Donc, en termes de formation, voilà, c'était intéressant dans les années 90, honnêtement, ce sujet de comment est-ce qu'on gère des organisations dont la finalité n'est pas le profit était, dans le contexte français, absent. Et je prétends qu'il n'est pas très présent, à part à l'ESSEC, et peut-être dans d'autres écoles qui commencent à le traiter, cette question de comment est-ce que, quand on a une organisation dont la finalité, c'est d'avoir de l'impact social, quand on a une organisation dont la finalité est d'avoir de l'impact environnemental, quelles sont les questions que ça pose? Comment est-ce qu'on va penser les questions de recrutement? Comment est-ce qu'on va penser parfois les tensions entre la nécessité d'avoir un modèle économique tout en ayant un modèle économique pérenne, tout en ayant un impact social réel? Donc, il y a plein de questions, et vous avez raison hein, de challenger, de poser la question, c'est quoi le rôle des business schools dans nos modèles économiques actuels? Ce sont des vraies questions. Et j'espère qu'au-delà des applaudissements que vous avez raison de porter aujourd'hui, que vous allez approfondir et regarder qu'est-ce que ça veut dire en fait derrière. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est concrètement questionné. Il y a tout un pan de l'économie qui est un pan de l'économie, on va dire, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc pour qui la priorité c'est l'impact et pas le profit. Maintenant, il y a aussi tout un pan de l'économie pour qui aujourd'hui, la priorité, c'est le profit. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça se questionne? Comment est-ce que ça se challenge? Si tout ça n'est pas questionné dans une école de commerce comme l'ESSEC, alors je pense qu'on se trompe de métier. Donc, je pense que vous avez raison de poser ces questions. Il faut les poser à moi, il faut les poser à vos professeurs dans un certain nombre de cours. Il faut aussi vous les poser à vous, c'est-à-dire quel rôle vous avez envie de jouer dans cette société. Vous avez probablement entendu, au moment des cérémonies de diplomation qui ont eu lieu l'an passé, un certain nombre d'élèves, on a vu notamment les élèves d'AgroParisTech, dire « on déserte ». On a été formés par nos écoles à servir le grand capital et nous, on veut quelque part suivre d'autres voies. C'est éminemment respectable comme démarche, la désertion. Il y a une autre approche aussi dont on a besoin absolument, c'est qu'on a besoin de gens qui vont transformer les organisations actuelles. Et vous allez être équipés avec vos formations à l'ESSEC, comme ont été un certain nombre de vos collègues à AgroParisTech, avec des formations supérieures, avec un investissement très fort de la société, notamment dans vos classes prépa, etc. Vous avez, certains d'entre vous seront peut-être des déserteurs. J'espère aussi que certains d'entre vous prendront les armes dans le système, dans les organisations actuelles, pour le transformer. On a absolument besoin de vous et on essaye humblement et sincèrement, donc sans vouloir faire de greenwashing ni quoi que ce soit, sincèrement vous donner les cartes, vous donner les connaissances, vous donner la compréhension du système et de l'écosystème pour être en capacité de le changer. Et je pense que vous avez tous la capacité à le faire et j'espère vraiment que vous le ferez.
Et au-delà de cet échange, on reste évidemment à disposition pour tous ceux qui auraient des doutes sur la sincérité de l'ampleur de la démarche Together. Ça mérite, s'il y avait des doutes, qu'on continue à en discuter. Il y a une autre question, oui. Troisième rang.
Merci beaucoup pour votre intervention. Et j'ai une question pour Madame Bertin. Vous avez donc évoqué le fait que beaucoup de salariés chez Deloitte passent en tout et pour tout 2 jours entiers par an à travailler des missions à but plus social. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer un modèle qui soit plus extensif dans cette démarche, c'est-à-dire chaque jour, lors de l'accompagnement, lors du conseil pour les entreprises, voilà, adopter un point de vue plus sociétal, plus respectueux, et aller vers cette démarche, non pas seulement 2 jours entiers par an, mais tous les jours, à chaque fois qu'il y a une mission de conseil.
Non, mais très, très, très bonne remarque. J'évoquais les 2 jours qui sont vraiment du temps exogène qu'on donne dans les lycées, ou, voilà, qui sont vraiment un minimum. Hein. Beaucoup de collaborateurs, par exemple, tous les samedis matins, donnent des cours de maths. On ouvre toute la... On a la chance que tous nos étages peuvent être ouverts le samedi. On accueille plein d'associations, etc. Donc ça, c'est le côté vraiment sociétal exogène. Mais j'évoque au départ que notre plus grand impact, il est sur nos clients, il est au quotidien dans les missions. Et donc, vous a pas échappé, notamment, enfin, Anne-Claire évoquait les prises de parole, effectivement, les prises de conscience, enfin, voilà, des choix que peuvent faire tel ou tel diplômé. Là encore, hein, Fleur, par exemple, a pris la parole à HEC. Enfin, son discours était pas mal relayé. Il se trouve qu'elle a intégré des lois de développement durable et qu'effectivement, elle se concentre sur des missions à valeur ajoutée chez les clients. Donc, les 2 jours sont vraiment de l'exogène, où là, sur le terrain, on va... Mais évidemment que... Enfin, tu sais, on a monté notre politique RSE, c'est « We move, we guide ». Donc, « We move », on essaie de se bouger en interne. Mais un cabinet de conseil comme le nôtre, notre plus-value, elle est sur les conseils qu'on apporte aux clients. Et tu as 200% raison, je l'ai moins évoqué, mais c'est évidemment l'ampleur de notre valeur ajoutée, elle est là, et de se poser les bonnes questions à chaque fois sur les missions qu'on fait. Hein, donc, tout à fait, tu as tout à fait raison.
Est-ce qu'il y a d'autres questions en bas ou en haut? J'ai vu que Jessica était là-haut, pour vous passer le micro. Ok, alors j'alimente avec une dernière slide. Alors l'éco-citoyenneté, chacun d'entre vous est libre de faire sa part, et ça c'est le quotidien, et là aussi on essaiera d'alimenter par des expos, par des suggestions, par des outils qui vous permettront de mesurer votre propre impact carbone, et bien de faire en sorte que d'une année à l'autre, l'impact environnemental soit le meilleur possible.
On parle des poubelles, non?
J'en ai touché, oui.
Des poubelles.
Vas-y, je te passe
la parole. Les poubelles. Vous allez voir, il y a des magnifiques poubelles à tri partout dans l'école. C'est un énorme travail qu'a fait l'équipe, d'essayer de trouver les bons endroits pour qu'on les voit bien, de mettre des bonnes signalétiques, etc. Il suffit qu'une personne mette dans un bac trié un déchet souillé, tout le tri fait par tous les autres, et anéanti, il va falloir mettre la benne triée complètement dans le tout venant. S'il vous plaît, vous êtes des gens brillants, on le sait, vous avez la capacité à comprendre dans quelle poubelle mettre vos déchets. Ça prend 30 secondes, c'est fondamental. On a un objectif ambitieux de réduire de 70% nos déchets, en valorisant 70% des déchets par le recyclage. On ne pourra pas y arriver si vous ne faites pas votre part. Donc, please, please, les poubelles, étudiez le sujet, comprenez les couleurs, c'est à votre portée, et aidez-nous dans cette démarche. Ça paraît ridicule, mais honnêtement, l'an passé, au bout d'un an, on avait encore des poubelles dans lesquelles on trouvait tout et n'importe quoi.
Exactement. Merci. Ça commence par ça. Et ça, c'est à portée de tout le monde. Le corollaire, c'est d'ailleurs la suppression de toutes les bouteilles d'eau en plastique sur le campus. C'est pas si simple de les supprimer, mais c'est quand même la nouvelle règle. Alors, on fait la chasse à tous ceux qui n'ont pas compris que quand ils ont reçu des gourdes à l'entrée passée pour s'en servir. Ça fait partie, franchement, des petits gestes. Et si on n'est pas capable de faire ça, c'est mal barré pour les grands gestes. Mais je sais qu'on peut compter sur vous. Au-delà de ça, voilà juste quelques représentations de réseaux dans lesquels vous pouvez vous engager, du bouquin de Julien Vidal. Ça commence par moi, 365 petites idées, une par jour pour juste être un peu meilleur l'année prochaine que vous l'étiez l'année d'avant. Bref, tout ça, c'est à portée de main. Donc, on compte sur vous dans les cours, dans les assos, sur le tri, sur la diversité, sur mille et un sujets, sur le campus, sur le territoire. Allez le découvrir et puis faisons le vivre. Sur vos engagements de tutorat, sur les mobilités, sur tout ça, et on va gagner. À bientôt. Merci pour votre attention.